France Inter, le rendez-vous de la médiatrice, Emmanuelle Davier.
Bonjour à tous. Vous prenez le petit déjeuner avec l'une et vous préparez votre dîner avec l'autre. La première vous réveille avec les nouvelles du monde et annonce l'actualité qui va rythmer la journée. La seconde accompagne les dernières nouvelles du jour. Florence Paracuelos pilote le journal de 8 heures sur France Inter, le journal le plus écouté en radio avec près de 2,3 millions d'auditeurs. Hélène Filly est aux manettes du 19 heures. Deux grands rendez-vous d'information pour lesquels travaille toute la rédaction de France Inter en préparant des reportages, des décryptages, des analyses qui touchent tous les domaines de l'information, la politique, l'économie, le social, le judiciaire, la santé, l'éducation, la culture. Comment faire le tri entre toutes les informations pour vous délivrer un journal complet qui fait la synthèse de l'actualité? Quelles sont les contraintes de cet exercice journalistique très millimétré? Le rendez-vous de la médiatrice vous propose ce matin de découvrir les coulisses du 8h et du 19h de France Inter.
Le journal Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Des slogans de propagande sur les murs, des familles qui vendent leurs biens sur les trottoirs, d'autres qui vendent leurs enfants pour survivre dans les campagnes. Quelques images de l'Afghanistan, des talibans, de retour au pouvoir depuis 6 mois exactement, la charia et leurs lois. Les premières à la payer sont les femmes. Plus de collège ou de lycée pour les jeunes filles, c'est interdit. Pour étudier, il faut se cacher, comme dans cette école clandestine. Reportage signé Valérie Crova.
Hélène Filly, bonsoir.
Sidérantes images aujourd'hui à Jérusalem. Journée d'obsèques de la journaliste Shirène Abouaklé, tuée avant-hier en plein reportage. À peine le cercueil sorti de l'hôpital, porté par une foule dense, brandissant des drapeaux palestiniens. La police israélienne s'est mise à charger.
Bonjour Florence Paracuelos.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Hélène Filly.
Bonjour.
Alors avant d'aborder les questions de fond, évoquons un peu votre quotidien, Florence Paracuelos. À quelle heure sonne le réveil?
Alors, moi j'ai une vie qui fait vraiment rêver, puisque mon réveil sonne à 1h45 la nuit. Et lundi au vendredi.
Et vous arrivez à quelle heure à la radio?
Et j'arrive vers 2h30 à la radio.
2h30 du matin à la radio. Et vous, Hélène Filly?
Beaucoup plus tard, évidemment, puisque moi, ma journée commence en milieu de matinée la plupart du temps.
Alors, une question que se posent les auditeurs. Pourquoi faut-il autant de temps pour préparer un journal? Florence Paracuelos, très concrètement, quelles sont toutes les étapes qui précèdent votre entrée en studio? Alors, évidemment, pour présenter le 8h, mais auparavant, vous présentez également le 6h30.
Oui, alors tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Donc, moi, quand j'arrive à 2h30 du matin, mais c'est pareil pour Hélène, évidemment, je commence par remonter le fil des dépêches AFP, qui est l'agence qui nous fournit énormément d'informations pour voir ce qui s'est passé dans la nuit. Je lis la presse qui nous arrive assez tôt le matin. On écoute avec mes camarades Anaïs Feuga, Alexis Morel, tous les éléments qui ont été fabriqués pour la matinale la veille, donc les reportages, les analyses, les décryptages, les interviews, on écoute tout ça, c'est l'équivalent d'une quarantaine d'éléments d'une minute trente. Et ensuite, on se réunit avec notre rédacteur en chef, Michael Thébault, à 4h du matin, pour la conférence de rédaction, pendant laquelle on va décider qui fait quoi, qui ouvre avec quoi, c'est-à-dire qui met quoi comme premier sujet dans son journal, et pendant laquelle cette conférence, on va faire en sorte de ne pas se répéter entre nous, de ne pas donner exactement les mêmes informations, de ne pas traiter les mêmes angles pour que l'auditeur qui écoute sur la longueur ait pas l'impression d'entendre tout le temps la même chose.
Oui, alors...
Donc tout ça, ça prend du temps, et ensuite, une fois qu'on a décidé tout ça, eh ben, il faut écrire les journaux. Donc écrire le 6h30 et puis ensuite écrire le journal de 8h.
Donc la conférence de rédaction, vous n'êtes que 4.
La conférence de rédaction, on n'est que 4. C'est la seule de la journée où on est si peu. Bien réveillé. Voilà.
Alors, tout à fait différente, la conférence de rédaction du matin.
Ah bah oui, celle de la journée, elles sont très différentes. Il y a d'abord celle du matin où il y a un débrief de la matinale en tout début. Et là, autour de la grande table de la conférence de rédaction, vous avez les présentateurs, le directeur de la rédaction, le chef des infos et tous les chefs de service, les services politiques, étrangers, culture, voilà, tous les services de la rédaction, un représentant. Tant le chef de service qui vient pour, on dit ça comme ça, c'est le jargon, vendre ses sujets, ses titres de l'actu, qu'est-ce qui va se passer dans mon domaine aujourd'hui. Il y a un grand tour qui est fait et c'est sur cette base ensuite qu'on va décider des sujets qu'on traite. Ça, c'est la conférence de rédaction de 9h et puis on a la même à 15h pour préparer les journaux du soir.
Alors très concrètement, pour que les auditeurs comprennent le cheminement d'une information, dans chaque service, les journalistes disent à leur chef de service « voici les sujets que l'on peut traiter ». Et chaque chef de service, lors de la conférence de rédaction, va les présenter. Il y a effectivement ce tour de table. Et ce qui est important également de noter, c'est votre marge de liberté. Justement, quelle marge de liberté, Florence Paracuelos, avez-vous? Un auditeur, précisément, demande si votre journal est relu par quelqu'un avant que vous le présentiez.
Alors, quand le rédacteur en chef a le temps, il jette un œil, mais pour voir si on ne dit pas de bêtises, si on ne se trompe pas dans un chiffre ou dans un nom. Mais la grande liberté que nous avons, c'est que nous écrivons nos journaux de bout en bout et que, comme on a la confiance de notre direction, on a cette liberté d'écriture totale. Personne ne nous dit, tu dois dire ça ou tu ne dois pas dire ça. Personne n'écrit ce que nous on doit dire à l'antenne.
De décide pour nous de la hiérarchie d'ailleurs de nos journaux. On discute collectivement du sujet par lequel on va commencer, démarrer le journal, mais ensuite à nous de tricoter comme on le sent le reste du journal. Mais c'est vrai que le coup d'œil du rédacteur en chef Estelle Schmitt est là pour le faire, pour avoir ce même rôle dans la journée. Il est important aussi parce que c'est une équipe, Florence le rappelait, avec Anaïs Fega et Alexis Morel le matin, avec Sébastien Logénie le soir. On est deux, il y a deux journaux du soir, et donc c'est aussi important parfois que on ne dise pas tous les deux exactement les mêmes infos. Il y a des informations qu'on n'est pas obligé de redonner deux fois de suite dans deux journaux différents, et ça Estelle Schmitt peut nous le souligner.
Alors revenons à la conférence de rédaction. Avez-vous le droit d'imposer un sujet, Hélène Philly?
Mais moi, j'ai pas l'impression d'imposer quoi que ce soit. En revanche, c'est notre rôle d'être vigilant, de mettre un sujet sur la table s'il a pas été évoqué précédemment dans le tour de table des chefs de service. Et après, d'en discuter, en fait. C'est pas forcément un sujet que je vais imposer, mais que je vais mettre dans le débat, mettre sur la table pour qu'on échange dessus et qu'on décide ensuite de le traiter ou pas.
Et est-ce qu'il arrive que le rédacteur en chef ou bien le directeur de la rédaction qui anime la conférence de rédaction ne soit pas d'accord avec l'un de vos choix? Il y a une discussion.
Ça peut arriver, mais on arrive, la discussion nous amène toujours finalement à trouver un terrain d'entente, un accord.
Et vous, Florence?
De la même façon, on discute, on argumente. Et on tente de se convaincre, et puis parfois c'est l'un qui l'emporte, parfois c'est l'autre.
Un auditeur nous écrit « Je ne comprends pas comment les journalistes qui nous parlent le matin peuvent être déjà au courant de ce qui va se dérouler dans la journée, de connaître les temps forts. »
Alors ça, c'est ce qu'on appelle les prévisions, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre d'événements qu'on connaît à l'avance. On ne sait pas comment ils vont se dérouler, mais on sait que Bruno Le Maire va recevoir cet après-midi les partenaires sociaux. On sait que un tel va faire une visite, que Joe Biden doit parler de tel sujet. Ça, c'est des choses qu'on sait, de fait, parce que c'est dans les agendas politiques, dans les agendas syndicaux, dans les agendas ministériels. Donc, à partir de là, nous, on se dit, on traitera le sujet quand il aura lieu, mais qu'est-ce qu'on peut apporter comme éclairage à l'auditeur, comme reportage? Qu'est-ce qu'on peut donner la parole aux gens, en fait, sur ce sujet qui va être peut-être traité de façon institutionnelle plus tard, mais que nous, on peut traiter en amont avec l'angle qui nous convient.
Un exemple, ça peut être un jour où Bruno Le Maire, tu donnais cet exemple-là, Florence, reçoit les organisations patronales sur le pouvoir d'achat. Ça a été le cas cette semaine. Le matin, en matinale, vous pouvez avoir un sujet d'illustration sur la problématique auprès des gens.
Un reportage dans une entreprise, avec un patron, avec des salariés. Voilà, nous, ça nous permet d'illustrer et de faire un sujet en amont sans qu'il soit institutionnel, alors qu'il peut l'être un peu plus tard. On va entendre les syndicats, les patrons et le ministre.
Et le soir, vous faites le compte-rendu de la rencontre.
Éventuellement.
Dans le traitement de l'information, quelle est la différence entre le matin et le soir? Alors c'est d'autant plus intéressant cette question, Florence, que vous avez à une époque présenté le 18h et vous, Hélène, à une époque le 7h.
Alors, ouais, je dirais que c'est très différent. Je dirais, Hélène, que le soir, toi tu es plutôt dans une information de flux, il est en train de se passer quelque chose ou il vient de se passer quelque chose, ça bouge, on réécrit le soir, les choses changent en fait jusqu'à la dernière minute, alors que nous, le matin, c'est plus rare, parce que il se passe, faut le reconnaître, pas grand-chose au milieu de la nuit. Il se passe des choses aux États-Unis, effectivement, on peut avoir une actualité à l'étranger. Donc, nous, on est là pour mettre en valeur, le matin, des sujets qui ont été pensés la veille par la rédaction, et donc pour mettre en valeur le travail et les choix de la rédaction.
Alors, effectivement, parfois tout est calé et il y a quelques ajustements qui s'opèrent le matin en conférence de rédaction, mais il arrive malgré tout qu'un événement historique survienne dans la nuit et bouscule absolument tout ce qui était initialement prévu dans la matinale.
France Inter.
Tout était prêt, sa déclaration a été diffusée à 4 heures ce matin à la télévision russe. Vladimir Poutine annonce la guerre.
J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. Nos plans n'incluent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force.
Pas d'occupation de l'Ukraine, dit le président russe avec ses mots de génocide et de dénazification. Et dans la foulée, des explosions un peu partout dans le pays, à commencer par la capitale Kiev. Bonjour Eric Biegala.
Racontez-nous, Florence Paracuelos, comment s'est passée la préparation de cette matinale du 24 février dernier.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en arrivant vers 2h30 du matin, on sait, grâce à nos envoyés spéciaux sur le terrain en Ukraine, qu'il va se passer quelque chose, que Vladimir Poutine va sans doute lancer son offensive, parce que à ce moment-là, il y a des rumeurs très très persistantes sur place. Donc on se met dans cet état d'esprit-là, et puis juste avant 4 heures, l'heure de notre conférence de rédaction, apparaissent les premiers urgents de l'AFP, des agences de presse, qui nous disent Vladimir Poutine prend la parole, il annonce ce que nous venons d'entendre. Ce qui se passe, c'est que nous, on met notre force de frappe journalistique au service de cette information. Parce que, à ce moment-là, on a plusieurs envoyés spéciaux en Ukraine. On a Omar Waman, on a Thibault Lefebvre, on a Eric Biegala, on en a d'autres. On a toute la rédaction internationale qui est là sur le pont. Donc, ça a été pour nous une grande satisfaction que de pouvoir raconter cet événement majeur avec toute la richesse d'une rédaction sur le terrain ou ici à Paris, en mesure de nous donner les grands enjeux, de nous expliquer ce qui se passe et de nous donner les enjeux et les perspectives de ce qui va se passer.
Et de raconter l'histoire au moment où elle se fait.
Bien sûr.
Pour une toute autre actualité, Hélène Filly, vous avez également été confrontée à ce cas de figure tout récemment, le 16 mai dernier, 40 minutes avant le début de votre journal, l'Élysée annonce qu'Elisabeth Borne est nommée Première Ministre. Tout le 19h que vous aviez préparé, qu'est-il devenu ?
Une bonne partie jetée à la poubelle, je dois dire.
Le rendez-vous de la médiatrice.
Plus de 3 semaines après le second tour de la présidentielle, voici donc le premier acte fort du second mandat d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne nommée à Matignon, où elle va donc remplacer Jean Castex, premier ministre post-Covid, resté en poste 681 jours. Et on prend tout de suite la direction de Matignon, où la passation de pouvoir est en train de se faire, puisque Elisabeth Borne est arrivée et s'entretient en ce moment avec Jean Castex, Simon Le Baron.
Une bonne partie de votre journal jeté à la poubelle, autant dire qu'il ne faut pas être d'une nature stressée lorsque tout bouge quelques minutes avant l'antenne. Comment ça s'est passé?
Bon, on le savait un petit peu parce qu'on savait en milieu d'après-midi que le nom de la première ministre serait dévoilé en fin de journée, donc on s'était un petit peu préparé. Effectivement, j'ai refait une bonne partie de mon journal 40 minutes avant parce que tout s'est précipité un peu juste avant le 19h. J'étais prête à donner le nom de la première ministre. Au départ, autour de 17h30, on nous avait dit 17h30, première annonce, on saura qui sera l'heureux élu. Et j'étais même prête à aller faire un petit flash spécial en studio au moment de l'annonce pour que l'auditeur en soit informé de manière rapide, mais en temps réel, en fin de journée. Il se trouve que, comme souvent, l'agenda prend du retard et que finalement, la passation de pouvoir a eu lieu à 19h pétante, c'est-à-dire qu'Elisabeth Borne a fait son entrée dans la cour de Matignon au moment où je disais bonsoir aux auditeurs de France Inter. Et là, bah, on peut compter, nous, en tant que présentateurs, sur une équipe de reporters tout terrain, parce que je n'ai eu qu'à donner la parole aux journalistes du service politique qui étaient là encore prépositionnés partout, aux spécialistes environnement, Sandy Dauphin qui a déboulé dans le studio, comme Fabien Cazot, chef du service économie, et les services eux-mêmes, les spécialistes des grands question qui découlait de cette nomination était prêt à faire des réactions téléphoniques qui ont permis d'enrichir le journal.
Je vous soumets à un cas d'école. Une énorme info tombe 10 minutes avant votre journal. Quel principe de vérification est mis en œuvre? Qui valide si vous pouvez donner ou non cette information à l'antenne, Florence Paracuelos?
Alors, ça arrive. Énorme, enfin, ou pas. Hein, mais enfin, ça arrive qu'il y ait des informations qui tombent de très peu de temps avant le journal et qu'on ait besoin de les vérifier avant de les donner. Dans ces cas-là, c'est le rédacteur en chef qui prend son téléphone, qui appelle tout de suite le journaliste ou le service concerné par l'information, qui, lui, va avoir des contacts et qui va pouvoir vérifier l'information, passer des coups de fil pour que nous, on la donne à l'antenne.
Et on ne la donne que quand elle est vérifiée, ouais, effectivement, par la rédaction.
Quelles qualités sont requises pour présenter un journal ?
Alors,
ah, c'est une bonne question.
Oui, bah, j'imagine qu'il y a des qualités d'écriture, c'est-à-dire que, mais ça, c'est une écriture radio, c'est-à-dire qu'on
et qui s'apprend d'ailleurs, en fait. Hein.
Qui s'apprend, alors, et qui se travaille.
La spécificité de l'écriture radio.
Alors, une écriture courte. On n'écrit pas en radio comme on écrit dans un article de presse écrite, évidemment.
Il faut que ce soit imagé.
Il faut que ce soit imagé, il faut que ce soit court, il faut que ce soit rythmé.
Efficace.
Voilà.
D'ailleurs, c'est une question assez récurrente. Est-ce que vous écrivez ce que vous dites? Un certain nombre de personnes pensent qu'en radio, ce que l'on dit au micro n'est pas écrit, alors que, évidemment, dans vos journaux, tout est absolument millimétré.
Ah bah oui, parce qu'on n'est pas en train de discuter, on n'est pas dans un grand débat, dans un talk show. Nous, on doit donner des informations précises, avec des chiffres, faire attention aux mots qu'on emploie. Ça, c'est l'essentiel de notre travail, c'est choisir les mots. Donc, évidemment, on écrit.
Et alors, vos journaux sont quand même assez longs. Comment vous maintenez le rythme et l'attention des auditeurs?
Est-ce à la fois un peu casser les formats au fur et à mesure.
Je suis pour qu'on ne révèle pas
tous les secrets de fabrication.
Le secret de nos recettes, Hélène. Enfin, vous savez, un journal, c'est comme un menu gastronomique, hein, avec plusieurs entrées, des plats de résistance, des mignardises, des desserts. Non, non, mais sincèrement, après, c'est vrai que c'est notre tambouille technique.
C'est ce qui vous distingue de vos confrères.
Peut-être.
Par la longueur des journaux, peut-être. On a encore la chance dans cette radio d'avoir des journaux assez longs et ça permet une richesse, une variété des sujets, des angles qu'on peut développer et ça, on peut s'en féliciter.
Idéalement, par quel sujet termine-t-on un journal ?
Là non plus, il n'y a pas de règle, je trouve.
Moi, je trouve que c'est un dessert, quand même, une fin de journal. On a envie de donner du sourire aux auditeurs, donc... Donc c'est soit un sujet qui va nous faire rire, de la culture, beaucoup quand même. Enfin, c'est vrai que la culture a une place très importante sur France Inter, donc là c'est pas toujours absolument riant parce que c'est pas le but. Mais enfin, ça laisse une envie, ça laisse un désir, ça peut être du sport.
Et puis parfois ça peut être une information qui marque aussi, je trouve. C'est vrai que c'est important d'avoir un sourire, quand même une forme de légèreté pour terminer un journal, mais ça peut aussi être une information qui a marqué et qui reste en mémoire de l'auditeur. La culture, d'ailleurs, elle n'est pas forcément non plus cantonnée aux fins de canard. Elle peut, vous nous demandiez tout à l'heure, comment on garde l'attention de l'auditeur jusqu'au bout, comment on fait pour le retenir. Ça peut aussi être ça, parfois casser les codes. Un sujet culture est parfois, pas toujours, tu le disais Florence, riant. Il peut être plus haut dans notre hiérarchie d'information, comme le sport d'ailleurs. L'économie du sport nous fait remonter aussi parfois des sujets sport bien plus haut dans un journal.
Eh bien moi je termine sobrement cette émission en vous remerciant de nous avoir éclairé sur vos pratiques professionnelles. Merci Florence Paracuelos.
Merci à vous.
Merci Hélène Fili.
Merci Emmanuel.
Si vous souhaitez faire une remarque sur une émission, poser une question sur la ligne éditoriale de France Inter, vous pouvez nous écrire sur le site médiatrice de Radio France. À la réalisation de cette émission aujourd'hui, Anne-Cécile Perrin et Antoine Larcher, et à la technique, Grégory Wallon. Après les informations, vous retrouvez Ali Rebéi et ses invités dans Grand Bien vous fasse.